7. Pour Calvin Tower, qui avait commencé dans la vie sous le nom de Calvin Torren, il n'y eut pas un soulagement immédiat, pas de « Merci mon Dieu, je suis sauvé ». Sa première pensée fut « Eux, ils sont méchants, celui-là est encore pire ». Dans la semi-pénombre de l'entrepôt, le nouveau venu semblait se fondre dans sa propre ombre très sautante pour n'être plus qu'une apparition de 3 mètres de haut. Une apparition aux yeux brûlants qui jaillissaient de leurs orbites, et une bouche ornée d'une rangée de dents d'un blanc éclatant qui ressemblait presque à des crocs. Dans une main, il tenait un pistolet de la taille d'un tromblon, le genre d'arme qu'on retrouvait dans les récits d'aventure du XVIIe siècle sous le terme de « machine ». Il attrapa Andolini par le haut de la chemise et par le revers de sa veste sport et l'envoya voler contre le mur. La hanche du truand cogna contre la porte en verre et fit basculer toute la bibliothèque. Tower poussa un cri de désespoir auquel aucun des deux hommes ne prêta la moindre attention. L'homme de Balassar essaya de s'esquiver par la gauche en rampant. Le nouveau, le type à queue de cheval qui montrait les dents, le laissa s'éloigner, puis le fit tomber et l'immobilisa en pesant sur lui de tout son poids, un genou en appui contre sa poitrine. Il fourra le nez du tromblon de la machine dans le petit creux de chair juste sous le menton du truand. Le type secoua la tête, tentant de s'en débarrasser. Le nouveau ne fit qu'appuyer un peu plus. D'une voix entrecoupée qui lui donnait des airs de canard de dessin animé, la torpille de Balassar dit « Me fais pas rire, branleur! C'est pas vrai, ton truc !» Le nouveau, celui qui paraissait se fondre dans son ombre, haut comme un géant, dégagea l'engin de sous le menton du truand, l'arma du pouce et visa au loin dans l'entrepôt. Tower ouvrit la bouche pour parler, Dieu savait pour dire quoi, mais avant qu'il ait pu articuler un mot, il y eut une détonation assourdissante, comme un obus explosant à 2 mètres du terrier d'un malheureux G.I. Une flamme jaune vif s'échappa de la gueule de l'arme. Une seconde plus tard, le canon était de nouveau pointé contre le menton du truand.
« Qu'est-ce que t'en dis, Jack ?» halta le nouveau. « Tu penses toujours que c'est un faux ? Je vais te dire ce que moi je pense. La prochaine fois que j'appuierai sur la détente, ta cervelle va voler jusqu'à Hoboken. »
8. Eddie vit de la peur dans les yeux de Jack Andolini. Mais pas de panique. Il n'en fut pas surpris. C'est Jack Andolini qui l'avait coincé après que la livraison de cocaïne en provenance de Nassau avait mal tourné. Cette version du personnage était plus jeune, de 10 ans, mais guère plus charmante. Andolini, également surnommé « Triple Mocheté » par Henry Dean, le grand sage et éminent junkie, avait un front saillant d'homme des cavernes et une mâchoire en avant pour aller avec. Il avait des mains tellement énormes qu'on aurait dit des caricatures, des touffes de poils en décoraient les phalanges. À le voir, on aurait pu aussi le surnommer « Triple Crétin », mais il était loin d'être stupide. On ne grimpait pas les échelons jusqu'à devenir le bras droit d'un type comme Enrico Balassar si on était une andouille. Et si Jake n'avait peut-être pas atteint ce stade dans ce camp, ce serait le cas en 1986, quand Eddie atterrirait à Kennedy Airport avec 200 000 $ de poudre bolivienne sous sa chemise. Dans ce monde-là, dans ce où et dans ce camp, Andolini était devenu le maréchal d'Ilroque. Dans celui-ci, Eddie lui prédisait avec quasi-certitude une retraite anticipée. Et total. Sauf bien sûr s'il la jouait très fine. Eddie enfonça un peu plus le canon de son arme sous le menton d'Andolini. L'odeur mêlée d'essence et de poudre imprégnait l'air, dominant temporairement celle des livres. Quelque part dans l'ombre s'éleva un sifflement de colère de Sergio, le chat de la librairie. Sergio n'approuvait visiblement pas un tel boucan sur son territoire. Andolini fit la grimace et pencha la tête sur la gauche.
« Fais gaffe, mec, ce truc est brûlant !»« Pas aussi brûlant que l'endroit où tu te feras griller les fesses d'ici 5 minutes, » fit Eddie. « Sauf si tu m'écoutes, Jack. Tes chances de t'en sortir sont ridicules, mais pas nulles. Tu veux m'écouter ?»« Je ne vous connais pas. Et vous, comment vous nous connaissez ?»
Eddie retira son arme de sous le menton de Triple Mocheté et vit un cercle rouge à l'endroit où il avait appuyé le canon sur la peau. « Et si je te disais que ton cas a décidé que tu me reverrais dans 10 ans, et que tu te ferais bouffer par des hommes monstruosités, qui commenceront par tes pieds dans tes mocassins Gucci, et qui remonteront jusqu'en haut ?» Andolini ne le croirait pas, bien entendu. Pas plus qu'il n'avait cru que l'arme d'Eddie était une vraie, jusqu'à ce qu'Eddie lui ait prouvé que si. Et dans cette réalité-ci, à ce niveau de la tour, Andolini ne serait peut-être pas dévoré par les omarstruosités, parce que ce monde était différent de tous les autres. On était au niveau 19 de la tour sombre, et Eddie le sentait. Plus tard, il aurait le temps de s'apesantir là-dessus. Pour l'instant, le simple fait de penser lui était difficile. Tout ce qu'il voulait, c'était tuer ces deux hommes, puis se rendre directement à Brooklyn et liquider tout le reste du tête de Balassal. Eddie tapota le canon de son revolver contre l'une des pommettes saillantes d'Andolini. Il dut se retenir de se défouler sur cette andouille, et Andolini s'en rendit compte. Il cligna des yeux et s'humecta les lèvres. Le genou d'Eddie pesait toujours contre sa poitrine. Eddie la sentait se soulever et s'abaisser comme un soufflet.
« Tu n'as pas répondu à ma question ?» lui rappela Eddie. « Au lieu de ça, tu m'en as posé une autre.
La prochaine fois que tu fais ça, Jake, je me servirai de ce barillet pour te casser la tête. Et puis, je ferai sauter une de tes rotules et on t'appellera pas de folle jusqu'à la fin de tes jours.
Je peux te faire sauter pas mal de parties du corps sans que ça t'empêche de parler. Et ne joue pas au crétin avec moi. Tu n'es pas un crétin, sauf peut-être dans le choix de tes employeurs. Et je le sais. »
« Alors, je te repose la question, tu veux m'écouter ?»«
J'ai le choix, peut-être. »
Avec la même rapidité qui fondait ses gestes dans un grand flou presque effrayant, Eddie frappa Andolini au visage. Il entendit la pommette craquer bruyamment. Le sang se mit à gicler de sa narine droite, dont Eddie se dit qu'elle était aussi grosse que le tunnel du Queens. Andolini poussa un cri de douleur, Tower un cri de surprise. Eddie replaça le canon de l'arme sous le menton du truand.
Gardez un œil sur l'autre, monsieur Tower,
dit-il sans quitter Andolini du regard.
S'il bouge, prévenez-moi.
Qui êtes-vous ?
Bella presque Tower.
Un ami, le seul que vous ayez qui puisse vous sauver la couenne. Maintenant, surveillez-le et laissez-moi travailler.
D'accord.
Eddie reporta toute son attention sur Andolini.
J'ai descendu George parce que George est stupide. Même s'il pouvait délivrer le message que je veux transmettre, il n'y croirait pas. Et comment un homme pourrait-il en convaincre d'autres de quelque chose qu'il ne croit pas lui-même ?
Là, vous marquez un point, fit Andolini.
Il levait les yeux vers Eddie, des yeux pleins d'une fascination horrifiée, mesurant peut-être enfin qui était cet inconnu avec son revolver. Ce que Roland avait vu en lui dès le début, même quand Eddie Dean n'était rien d'autre qu'un camé en pleine crise de sevrage. Jake Andolini voyait en face de lui un pistolero.
« Je veux, mon neveu, » répliqua Eddie. « Et voici le message que je veux que tu transmettes. On ne touche pas à Tower. »
Jake secoua la tête.
« Vous ne comprenez pas, Tower est quelque chose que quelqu'un veut. Mon patron a accepté de le lui procurer. Il a donné sa parole. Et mon patron tient toujours ses promesses.
Je sais, » compléta Eddie.
« Seulement cette fois-ci, il ne pourra pas. Et ce ne sera pas sa faute, parce que M. Tower a décidé de ne pas vendre son terrain vague à l'Assemblée Corporation. Il va le vendre à la Tête Corporation, plutôt. Pigé ?
Monsieur, je ne vous connais pas, mais je connais mon patron. Rien ne l'arrêtera, si ?
Parce que Tower n'aura plus rien à vendre. Le terrain ne lui appartiendra plus. Et maintenant, écoute-moi encore plus attentivement.
Écoute Kamé, pas Kamae.
Avec sagesse, pas avec bêtise. Eddie se pencha vers Andolini. Jake le regardait, fasciné par les yeux saillants, les iris noisettes sur fond injectés de sang, et le rictus sauvage qui se trouvait maintenant à portée de baiser de sa propre bouche.
Monsieur Calvin Tower est désormais sous la protection d'une organisation plus puissante et plus impitoyable que tu ne saurais l'imaginer, Jake. Des gens à côté de qui il roquait à l'air d'une grosse hippie en plein Woodstock.
Tu vas devoir le convaincre qu'il n'a rien à gagner à continuer de harceler Calvin Tower, mais qu'il a tout à perdre.
Je ne peux pas, quant à toi.
Sache que la marque de Gilead est sur cet homme.
si jamais tu touches encore un cheveu de sa tête, si jamais tu remets le pied dans sa boutique, je viendrai à Brooklyn tuer ta femme et tes enfants. Puis je trouverai ta mère et ton père et je les tuerai eux aussi. Puis je tuerai les sœurs de ta mère et les frères de ton père. Puis je tuerai tes grands-parents s'ils sont toujours vivants. Et toi, je te garderai pour la fin. Tu me crois ?
Jake Candolini contempla de nouveau ce visage au-dessus de lui, les yeux injectés de sang, le rictus, les babines retroussées, mais cette fois avec un sentiment grandissant d'horreur. Le fait est que oui, il le croyait. Et qui qu'il fût, il en savait un paquet sur Palassar en général et sur cette affaire en particulier. Sur cette affaire, il en savait d'ailleurs peut-être plus qu'Candolini lui-même.
« On est nombreux, » poursuivit Eddie. « Et on a tous qu'un seul but, protéger... »
Il avait failli dire « protéger la rose. »«
Protéger Calvin Tower. »
Nous allons surveiller cet endroit, surveiller Tower, les amis de Tower, des gars comme Monsieur Dipno.
Eddie vit le regard de surprise d'Andolini et en éprouva une certaine satisfaction.
Quiconque viendra ici et ne fera même que lever la voix contre Tower verra sa famille tuée avant d'y passer lui-même.
Ça vaut aussi pour George, pour Timidetto, Trix Postino, ça vaut pour ton frère Claudio aussi.
À chaque nom, les yeux d'Andolini s'écarquillaient de plus en plus, puis se fermèrent une seconde lorsqu'Eddie parla de son frère. Eddie pensa qu'il avait sans doute été clair. Quant à savoir si Andolini saurait convaincre Balassal, c'était une autre question.
Mais en un sens, ça n'a même pas d'importance, se dit-il froidement. Une fois que Tower nous aura vendu le terrain, peu importe ce qu'ils lui feront, pas vrai? Comment vous en savez autant? Demanda Andolini.
« Peu importe, contente-toi de passer le message. Dis à Balassar d'avertir ses amis de la Sombra que le terrain n'est plus à vendre, pour eux en tout cas, et dis-lui que Tower est désormais sous la protection de ceux de Gilead et qu'ils ont des durs calibres. »«
Des durs, je veux dire que ce sont des gars plus dangereux que tous les Balassar de cette planète réunis, y compris ces types de la Sombra Corporation. » « Dis-lui que s'il persiste, il y aura assez de cadavres à Brooklyn pour remplir le Grand Army Plaza, avec parmi eux pas mal de femmes et d'enfants. Tâche de le convaincre.
J'essaierai. »
Eddie se releva, puis recula. Roulé en boule dans l'essence et le verre brisé, George Biondi commençait à remuer et à pousser des grondements de gorge. De la main tenant le revolver de Roland, Eddie fit signe à Jake de se lever.
« T'as intérêt à y arriver. »
9. Tower leur versa à chacun une tasse de café noir, mais ne put boire le sien. Ses mains tremblaient trop fort. Après l'avoir regardé essayer deux ou trois fois, et repensant à ce personnage dans UXB qui perdait son sang-froid, Eddie le prit en pitié et versa la moitié du café de Tower dans sa propre tasse. « Allez-y, essayez, » dit-il en poussant la tasse à demi-remplie devant le libraire. Tower avait remis ses lunettes, mais l'une des branches était tordue, et elles étaient penchées. Sans compter la fêlure qui zébrait le verre gauche comme un éclair. Les deux hommes étaient autour du comptoir en marbre, Tower derrière, Eddie perché sur l'un des tabourets en face de lui. Tower avait remporté avec lui le livre qu'Andolini avait menacé de passer par les flammes et l'avait posé à côté de la machine à café, comme s'il ne supportait pas qu'il soit hors de sa vue. Tower prit la tasse dans sa main tremblante. « Pas de bague, » remarqua Eddie, « sur aucune des deux mains, » et la vida d'un trait. Eddie n'arrivait pas à comprendre comment cet homme pouvait boire ce jus de chaussette noire par choix. Personnellement, Eddie n'aimait que le moitié-moitié. Après tous ces mois passés dans le monde de Roland, peut-être était-ce des années entières qui s'étaient écoulées, Il était pour lui aussi riche au goût que de la crème épaisse.
« Ça va mieux ? » demanda-t-il.
« Oui. » Tower regarda dehors, à travers la vitrine, comme s'il s'attendait à voir revenir la grosse berline grise qui avait démarré en trombe à peine 10 minutes plus tôt. Puis il se tourna vers Eddie. Il craignait toujours le jeune homme, mais la terreur elle-même avait disparu quand Eddie avait fait disparaître l'énorme revolver dans son ami le sac à malice, comme il l'appelait. Le sac était en cuir usé et délavé, et fermé par un cordon plutôt que par une fermeture éclair. Il semblait à Calvin Tower que c'était les aspects les plus effrayants de sa personnalité que le jeune homme avait rangés dans le sac à malice, en même temps que cette arme surdimensionnée. C'était une bonne chose parce que, ainsi, Tower pouvait croire que ce gosse avait bluffé quand il parlait de massacrer les familles de tous ses truands, ainsi que les truands eux-mêmes.
« Où est votre copain d'hypno, aujourd'hui ?» demanda Eddie.
« Chez le cancérologue. Il y a 2 ans, Aaron a commencé à avoir du sang dans la cuvette des toilettes. Si on a 20 ans, on se dit foutu hémorroïde et on va s'acheter un tube de préparation H. » Mais à plus de 70 ans, on craint le pire. Dans son cas, c'était mauvais, mais pas irrémédiable. Le cancer progresse moins vite quand on arrive à ces âges-là. Même le grand C se fait vieux. C'est plutôt drôle quand on y pense. Non ?
Bref, ils l'ont fait griller à coups de radiation et ils disent que tout est parti. Mais Aaron dit qu'il ne faut jamais tourner le dos au cancer. Il y retourne tous les 3 mois et il est allé aujourd'hui.
Et j'en suis content. C'est peut-être un vieux cocu, mais il reste une sacrée tête brûlée.
Il faudrait que je le présente à Jamie Jeffords, pensa Eddie. Il pourrait faire une partie de Castles à la place des échecs et se raconter des histoires du temps de la lune du Mook.
Tower souriait tristement. Il ajouta ses lunettes sur son nez. Elles se tinrent droites pendant une seconde, puis se remirent à pencher. Qui était presque pire que le ver fêlé, parce que ça donnait à Tower un air aussi fou que vulnérable. C'est une tête brûlée, et moi, je suis un lâche. C'est peut-être pour ça qu'on est amis. On compense les défauts de l'autre, à nous deux. On forme presque un tout.
Vous êtes peut-être un peu dur avec vous-même, suggéra Eddie.
Je ne crois pas. Mon analyste dit que si on voulait prévoir comment vont tourner les enfants d'un mâle A et d'une femelle B, il suffirait de regarder ma biographie. Il dit aussi que j'implore votre pardon, Calvin, mais je me fous royalement de votre analyste. Vous êtes cramponné à ce terrain vague au bout de la rue, et ça me suffit.
Je ne tire aucune gloire de ça, répondit Calvin Tower d'un air morose.
« C'est comme ça. » Il saisit le livre qu'il avait posé à côté de la machine à café. « Et les autres qu'il a menacé de brûler. J'ai tout simplement du mal à abandonner les choses. Quand ma première femme a voulu divorcer et que je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « Parce qu'en t'épousant, j'avais pas compris. J'ai cru que t'étais un homme. Il se trouve en fait que t'es un rat. »
Ce terrain est différent de vos livres.
« Vraiment ? Vous le croyez vraiment ?» Tower regardait Eddie, fasciné. Lorsqu'il porta de nouveau sa tasse à ses lèvres, Eddie fut satisfait de constater que ses mains ne tremblaient presque plus.
« Pourquoi pas vous ?
Parfois j'en rêve la nuit. Je ne suis pas vraiment retourné depuis que l'épicerie de Tommy Graham a dû fermer et que j'ai payé pour la faire détruire. » Et pour faire mettre la palissade, bien sûr, ce qui m'est revenu presque aussi cher que l'entreprise de démolition. Je rêve qu'il y a un champ de fleurs là-dedans, un champ de roses, et qu'au lieu de s'arrêter à la première avenue, il s'étend à l'infini. Drôle de rêve, hein ?
Eddie était persuadé que Calvin Tower faisait vraiment ce genre de rêve, mais il crut voir autre chose dans les yeux de l'homme derrière ses lunettes tordues et fêlées. Il avait l'impression que pour Tower, ce rêve incarnait tous les rêves qu'il ne voulait pas raconter.
« Drôle de rêve, acquiesça Eddie. Vous feriez bien de me resservir un peu de cette boue, je vous prie, si fait. Il faut que nous tenions une petite palabre. »
Tower sourit et brandit de nouveau le livre qu'Andolini avait voulu faire griller.
« Une palabre, c'est un mot qui n'arrête pas de répéter là-dedans. »«
Vraiment, dites-vous ?»«
Hein ?»
Edith tendit la main. « Faites voir. »
Tower hésita un instant, et Edith vit le visage du libraire se durcir, et il y eut un mélange douloureux d'émotions.
« Allons, Cal, je vais pas me torcher avec. »
« Non, non, bien sûr que non, je suis désolé. »
Et Eddie vit qu'il avait réellement l'air désolé, comme un alcoolique après une beuverie particulièrement destructrice.
« C'est seulement que certains livres sont très importants pour moi, et celui-ci est une vraie rareté. »
Il le donna à Eddie, qui sentit son cœur s'arrêter quand ses yeux se posèrent sur la couverture plastifiée.
« Quoi ?»
s'alarma Tower en posant sa tasse de café dans un grand bang.
« Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Eddie ne put répondre. L'illustration de couverture représentait un petit bâtiment en rond, comme une hutte cylindrique en bois, avec un toit d'aiguilles de pin. Debout, à côté de la hutte, se tenait un guerrier indien vêtu de culottes en peau de daim. Il était torse nu et tenait un tomahawk contre sa poitrine. En arrière-plan, une vieille locomotive à vapeur filait à travers la prairie, faisant bouillonner sa fumée blanche dans le ciel bleu. Le titre du livre était « Le Dogan ». L'auteur en était Benjamin Slightman Jr. De très loin, il entendit la voix assourdie de Tower lui demander s'il allait s'évanouir. D'un peu moins loin, il s'entendit répondre que non.
Benjamin Slightman Jr.
Ben Slightman, le jeune, autrement dit.
Et
il repoussa la main grassouillette de Tower lorsque ce dernier essaya de reprendre le livre, puis Eddie compta du doigt les lettres du nom de l'auteur. Il y en avait bien sûr 19. 10. Il avala une autre tasse du café de Tower. Cette fois sans faire moitié-moitié. Puis il reprit en main le volume plastifié.
« Qu'est-ce qui fait son prix ?» demanda-t-il. « Je veux dire, il a du prix pour moi parce que j'ai récemment rencontré quelqu'un qui porte le nom exact du type qui a écrit ça. » Mais une idée frappa Eddie,
et il se pencha sur la quatrième de couverture, espérant y trouver une photo de l'auteur. Il ne vit qu'une brève biographie de l'auteur tenant en deux lignes. Benjamin Slightman Jr. possède un ranch dans le Montana. Le Dogan est son deuxième roman. Sous ce texte s'étalait le dessin d'un aigle avec ce slogan.
Acheter des titres d'emprunt de guerre.
Mais qu'est-ce qui fait son prix à vos yeux, à vous? Pourquoi vaut-il 7500 billets?
L'expression de Tower se radoucit. 15 minutes plus tôt, il était mort de peur et craignait pour sa vie, mais à le regarder maintenant, rien de tout cela ne se lisait sur son visage. À présent, il était transporté par sa passion. Roland avait sa tour sombre. Ce type avait ses livres rares. Il le tint devant lui afin qu'Eddie pût voir la couverture.
« Le Dogan, vous voyez ?»
Tower ouvrit le livre et désigna le rabat de la couverture sous plastique lui aussi, où l'histoire était résumée.
« Et ici ?»«
Le Dogan, lui eut dit. L'histoire palpitante des efforts héroïques d'un guerrier indien pour survivre dans le Grand Ouest. Et alors ?»«
Maintenant, regardez-moi ça !»
s'exclama Tower d'un air triomphal en dévoilant la page de titre. Et Eddie put lire « Le Hogan, Benjamin Slightman Jr. »«
Je pige pas, » fit Eddie. « Qu'est-il d'extraordinaire ?»
Tower roula de gros yeux.
Et regardez mieux. Pourquoi vous ne me dites pas plutôt non? Regardez à nouveau. J'insiste, tout le bonheur est dans la découverte, monsieur Dean. N'importe quel collectionneur vous le dira, qu'il collectionne les timbres, les pièces de monnaie ou les livres, tout le bonheur est dans la découverte.
Il referma la couverture, et cette fois, Eddie comprit. Le titre en couverture est mal orthographié, c'est ça? Dogan au lieu de Hogan. Tower hocha joyeusement la tête.
Un Hogan est une hutte indienne, comme celle représentée en couverture. Quant au Dogan, c'est rien. La couverture erronée. Voilà ce qui fait la valeur de ce livre. Mais c'est pas tout, regardez-la.
Il alla à la toute dernière page et tendit le livre ouvert à Eddie. La date de dépôt légal était 1943, ce qui expliquait bien sûr l'aigle et le slogan en dessous de la biographie de l'auteur. Le titre du livre était « Le Hogan ». Aussi ne semblait-il pas y avoir d'erreur. Eddie était sur le point de poser la question lorsqu'il comprit de lui-même. « Ils ont retiré le junior du nom de l'auteur, c'est ça ?»«
Oui, oui !» exulta Tower, les bras serrés autour du corps, comme si le livre avait en fait été écrit par le père de l'auteur. D'ailleurs, lors d'une convention bibliographique à Philadelphie, j'ai expliqué ces détails à un juriste qui donnait une conférence sur les droits d'auteur, et ce type m'a confirmé que le père de ce Slightman Jr. pourrait exiger un droit de propriété sur ce livre simplement à cause d'une erreur typographique. D'incroyable, vous trouvez pas ?
Absolument, fit Eddie en pensant. Slightman l'aîné, Slightman le jeune. Et pensant aussi à la rapidité avec laquelle Jake était devenu ami avec ce dernier, et se demandant pourquoi cela le mettait soudain si mal à l'aise, assis là à boire son café dans cette bonne vieille cala de New York. Au moins, il a pris le Roger, se rassura Eddie.
Êtes-vous en train de me dire que ça suffit pour en faire un livre de valeur ? Demanda-t-il à Tower. Une faute d'impression en couverture, une ou deux à l'intérieur, et tout à coup ce truc vaut 7 500 $.
Pas du tout, répliqua Tower, l'air choqué. Mais M. Slightman a écrit 3 excellents livres sur la conquête de l'Ouest, tous du point de vue des Indiens. Le Hogan est le deuxième. C'est devenu un gros bonnet dans le Montana, après la guerre, avec un gros poste dans les eaux ou les minéraux, jusqu'au jour où, c'est là toute l'ironie de l'histoire, où il s'est fait tuer par un groupe d'Indiens. Ils l'ont scalpé, pour tout dire. Il buvait devant l'épicerie du coin.
Une épicerie du nom de Touk, pensa Eddie. J'en jurerai par ma montre et mon billet.
Et apparemment, M. Slightman leur a dit quelque chose qui ne leur a pas plu, et vous imaginez la fin de l'histoire.
Est-ce que c'est la même chose pour tous vos livres de valeur ? Demanda Eddie. Je veux dire, c'est une coïncidence quelconque qui fait leur prix, pas seulement l'histoire qu'ils racontent ?
Jeune homme, dit Tower en riant. La plupart des collectionneurs de livres n'ouvrent même pas leur trésor. Ouvrir et refermer un livre en abîme le dos et fait donc baisser le prix de revente.
Et ça ne vous paraît pas légèrement malsain comme comportement ?
Pas du tout, répondit Tower, mais une rougeur révélatrice lui envahit progressivement le visage, comme si une partie de lui comprenait le raisonnement d'Eddie. Si un client dépense 8 000 $ pour une première édition dédicacée de Tess de Beauville de Thomas Hardy, il paraît tout à fait sensé de mettre ce livre à l'abri dans un endroit sûr où on pourra le regarder, mais pas le toucher. Si ce gars veut lire l'histoire elle-même, qu'il l'achète en livre de poche.
Vous croyez à ce que vous racontez, constata Eddie, fasciné. Vous y croyez vraiment?
« Eh bien, oui, les livres peuvent être des objets de grande valeur. Cette valeur se crée de différentes façons. Parfois, la signature de l'auteur suffit. Parfois, comme c'est le cas ici, c'est une erreur d'impression. Ou bien, il s'agit d'une première édition extrêmement limitée. Et
Est-ce que tout ça a quelque chose à voir avec votre venue ici, monsieur Dean? Est-ce dont vous vouliez parler dans notre... palabre?
Non, je suppose que non.
Mais de quoi voulait-il palabrer, exactement?
Il l'avait su, c'était alors parfaitement clair dans son esprit, quand il avait traîné Andolini et Biondi hors de l'entrepôt, et qu'il les avait regardés tituber jusqu'à la voiture, se soutenant l'un l'autre. Même au beau milieu de New York la cynique, de la New York occupe-toi de tes oignons, ils avaient attiré l'attention. Ils étaient tous les deux en sang, avec ce regard qui disait
« Mais qu'est-ce qui a bien pu m'arriver ?»
Oui, alors, c'était clair. Le livre et le nom de l'auteur avaient de nouveau obscurci ses pensées. Il le prit des mains de Tower et le retourna sur le comptoir pour ne plus avoir à le regarder. Puis il entreprit de recouvrer ses esprits.
Avant tout, le plus important, monsieur Tower, c'est que vous quittiez New York jusqu'au 15 juillet. Parce qu'ils vont revenir. Sûrement pas ces types-là, mais d'autres hommes de main de Balassar. Et ils auront plus à cœur que jamais de nous donner une bonne leçon à vous et à moi. Balassar est un despote.
Eddie avait appris ce mot de Susanna. Elle l'avait utilisé pour qualifier l'homme tic-tac. Sa méthode, c'est l'escalade. On le gifle, il gifle deux fois plus fort. Un coup de poing dans le nez, il vous brise la mâchoire. On envoie une grenade, il réplique par une bombe.
Tower émit un grognement. C'était un grognement théâtral, même si telle n'était probablement pas son intention. Et dans d'autres circonstances, Eddie aurait sans doute éclaté de rire, mais pas là. En outre, ce qu'il avait voulu dire à Tower lui revenait en mémoire. Il pouvait conclure ce marchandage dans un chien, il allait conclure ce marchandage.
Moi, ils m'auront probablement pas, j'ai des affaires qui m'attendent ailleurs, au-delà des collines, très loin, pourrait-on dire. Votre boulot consiste à vous assurer qu'ils ne vous mettront pas la main dessus non plus.
Mais, après ce que vous venez de faire, et même s'ils ne vous ont pas cru pour les femmes et les enfants, derrière ses lunettes tordues, Tower le suppliait de ses yeux écarquillés de dire qu'il n'était vraiment pas sérieux. Quand il disait qu'il laisserait derrière lui assez de cadavres pour remplir le Grand Army Plaza. Mais Eddie ne pouvait rien pour lui en la matière.
Cal, écoutez-moi, avec des types comme Balassar, le problème n'est pas qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent vos limites à l'épreuve. Est-ce que j'ai fait peur à Gros Blair?
Non!
J'ai juste assommé. Est-ce que j'ai fait peur à Jake?
Oui.
Et ça va tenir parce que Jake a un minimum d'imagination.
Balassar sera-t-il impressionné que j'ai fait peur à Jake la triple mochetée?
Oui. Mais juste assez pour être sur ses gardes.
Eddie se pencha à travers le comptoir, regardant Tower avec sincérité.
Je ne veux pas tuer d'enfant.
« Ok. Soyons bien clairs là-dessus. Ailleurs, disons que ça sera plus commode, mes amis et moi, leur mettre nos vies dans la balance pour sauver des enfants. Mais il s'agit d'enfants humains. Alors que des types comme Jake et Trix Postino, comme Balassar lui-même, sont des animaux, des loups sur deux pattes. Et les loups élèvent-ils des humains? Non, ils élèvent d'autres loups. Est-ce que les loups mâles s'accouplent avec des femmes humaines? Non, ils s'accouplent avec des louves. Alors s'il fallait que j'aille là-bas, et j'irai s'il le fallait, je me dirais que je ne fais qu'éliminer une meute de loups, tous jusqu'au dernier louveteau, ni plus ni moins.
Mon Dieu, il est sérieux, murmura Tower à voix basse dans un souffle, pour lui tout seul.
Absolument, mais c'est pas le propos. Le problème, c'est qu'ils vont être après vous. Pas pour vous tuer, mais pour vous remettre sur le droit chemin. Si vous restez ici, Cal, je pense que vous pouvez craindre de vous retrouver méchamment estropié, au mieux.
Y a-t-il un endroit où vous puissiez aller jusqu'au 15 du mois prochain? Vous avez assez d'argent?
Je n'en ai pas moi-même, mais je pense que je pourrais en trouver.
En esprit, Eddie était déjà à Brooklyn. Balassal couvrait une partie de poker dans l'arrière-boutique de Bernie le Barbier. Tout le monde savait ça. La partie n'aurait peut-être pas lieu un soir de semaine, mais il y aurait là-bas quelqu'un avec du liquide.
Assez pour... Aaron a de l'argent,
dit Tower avec réticence. Ce n'est pas faute de m'avoir proposé de m'en prêter.
J'ai toujours répondu non. N'arrête pas de me répéter que j'ai besoin de vacances. J'imagine que comme ça, j'échapperai au type que vous venez de mettre à la porte. Il est curieux de savoir ce qu'ils veulent, mais il ne demandera jamais. C'est une tête brûlée, mais c'est aussi un vrai monsieur.
Tower eut un sourire fugace. Aaron et moi pourrions peut-être partir en vacances ensemble, jeune homme.
Après tout, une telle occasion ne se représentera peut-être pas.
Eddie était presque certain que la chimio et les rayons allaient garder Aaron Despnaux sur ses pieds pendant au moins encore 4 ans, mais ce n'était sûrement pas le moment de le dire. Il regarda en direction de la porte du restaurant spirituel de Manhattan et vit l'autre porte. Au-delà s'ouvrait l'entrée de la grotte. Posé là comme un yogi de bande dessinée, silhouette assise en tailleur, le pistolero attendait. Eddie se demanda depuis combien de temps il était ici, depuis combien de temps Roland supportait le son assourdi mais toujours insupportable du carillon Vahalash.
Atlantic City, ça sera assez loin, vous pensez?
Demanda timidement Tower. Eddie Dean eut presque un frisson en y pensant. Il eut une vision fugitive, celle de 2 moutons gras, un peu âgés, oui, mais toujours savoureux, se baladant non seulement au milieu d'une meute de loups, mais au cœur d'une ville qui en regorgeait.
« Pas là, » fit Eddie, « n'importe où, mais pas là. »
« Et le Maine ou le New Hampshire? Peut-être qu'on pourrait louer une petite maison près d'un lac jusqu'au 15 juillet. »
Eddie opina du chef. C'était un citadin. Il lui était difficile d'imaginer les méchants aller se perdre en Nouvelle-Angleterre du Nord avec leurs casquettes à carreaux et leurs gilets en duvet de canard, tout en mastiquant un sandwich au poivron et en sirotant leur Rufino.
Ça serait mieux. Pendant que vous y êtes, voyez donc si vous ne pouvez pas retrouver un avocat.
Tower éclata de rire. Eddie le regarda, la tête penchée sur le côté, souriant légèrement lui-même. C'était toujours sympa de faire rire les gens. Mais c'était encore plus sympa quand on savait ce qui les faisait se bidonner comme ça.
« Excusez-moi, » finit par articuler Tower. « C'est juste qu'Aaron était avocat autrefois. Sa sœur et ses 2 frères, qui sont plus jeunes que lui, le sont toujours. Ils ont pour habitude de dire qu'ils ont le nom de cabinet juridique le plus invraisemblable de New York, peut-être même de tous les États-Unis. La plaque dit juste... Despnaux. Voilà qui fera gagner du temps. Je veux que M. Despnaux vous rédige un contrat pendant votre séjour en Nouvelle-Angleterre.
Pendant notre planque en Nouvelle-Angleterre, le corrigea Tower, l'air soudain morose. Pendant notre cavale en Nouvelle-Angleterre.
Appelez ça comme vous voudrez, mais arrangez-vous pour que ce papier soit fait. Vous allez nous vendre ce terrain.
À moi et à mes amis, à la Ted Corporation. Vous n'allez en demander qu'1 $ pour commencer, mais je peux vous garantir qu'à la fin, vous vous rattraperez très largement. Il avait d'autres choses à dire, pourtant il s'interrompit. Quand il avait demandé à Aaron de lui montrer son livre, le Dogan ou le Hogan, ce dernier avait soudain pris une expression réticente où se lisait l'avarice. Ce qui rendait son air déplaisant, c'était cette stupidité sous-jacente, assez envahissante, finalement.
Oh, mon Dieu, il va faire des histoires. Après tout ce qui s'est passé, il va encore me faire des histoires. Et pourquoi? Parce que c'est réellement un rat.
Vous pouvez me faire confiance, Cal, dit-il.
sachant pertinemment que ce n'était pas là une question de confiance. « J'en jurerai par ma montre et mon billet. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi, je vous prie. Je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam. Je passe simplement dans la rue. Et je vous sauve la vie. N'oubliez pas ça. »
Le visage de Tower se ferma et prit une expression bornée. « Vous n'allez pas me tuer. Vous l'avez dit vous-même. »
« Mais ils allaient brûler vos livres préférés, vos livres les plus précieux. »«
Pour mes plus précieux. Mais ça aussi, ça pouvait être du bluff. »
Eddie inspira puis expira profondément, espérant sincèrement que l'envie qu'il avait de se pencher en travers du comptoir et d'attraper le gros cou de Tower allait se calmer.
Puis il se rappela que si Tower n'avait pas été borné, il aurait depuis longtemps vendu son terrain à la Sombra Corporation, et la rose aurait été écrasée par un bulldozer. Et la tour sombre. Eddie avait le sentiment que si la rose mourait, la tour sombre s'écroulerait tout bonnement. Comme la tour de Babel quand Dieu s'en était lassé et qu'il avait voulu se dégourdir les doigts. Et alors ? Pas question d'attendre encore un siècle ou un millénaire que la grosse machine qui dirigeait les rayons l'arche. Rien que des cendres, la poussière à la poussière, la chute pour tous. Et ensuite, vive le roi cramoisi, le seigneur des ténèbres Vanash.
Cal, si vous nous vendez votre terrain, vous êtes tranquille. Non seulement ça, mais à terme, vous aurez assez d'argent pour garder votre petite boutique jusqu'à la fin de vos jours. »
Une idée lui traversa soudain l'esprit.
« Hé, vous connaissez une société qui s'appelle les Industries Dentaires Holmes ?»
Tower sourit. « Qui ne les connaît pas. Moi-même, j'utilise leur fil dentaire. Et leur dentifrice. J'ai essayé le bain de bouche, mais il est trop fort. Pourquoi cette question ?»«
Parce que... Odetta Holmes est ma femme. J'ai peut-être l'air de Kermit la grenouille, mais en réalité, je suis ce putain de prince charmant. »
Tower ne pipa pas mot pendant un bon moment. Eddie maîtrisa son impatience et le laissa réfléchir. Tower finit par reprendre la parole.
Vous pensez que je me comporte comme un idiot ? Que je suis Silas Marner ou pire, Ebenezer Scrooge. »
Eddie ne savait pas qui était Silas Marner, mais il comprit l'idée générale à partir du contexte.
« On va dire les choses autrement. Disons qu'après ce que vous venez de traverser, vous êtes trop malin pour pas voir où est votre intérêt. »
Je me sens dans l'obligation de vous dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avarice ou de stupidité de ma part. Je suis sur mes gardes aussi. Je connais la valeur de cette partie de New York, de n'importe quel bout de terrain dans Manhattan. Mais il n'y a pas que ça. J'ai un coffre, là-bas derrière. Il y a quelque chose dedans. Quelque chose qui a sans doute bien plus de valeur que mon exemplaire dédicacé d'Ulysse.
« Alors, pourquoi ne pas l'avoir mis dans votre coffre à la banque ?»«
Parce que sa place est ici. Elle a toujours été ici. Peut-être à attendre votre arrivée ou celle de quelqu'un comme vous. Autrefois, monsieur Dean, ma famille possédait la quasi-totalité de la baie de la Tortue et... Tenez, attendez, vous avez une seconde ?»«
Oui, répondit Eddie.
Est-ce qu'il avait le choix ?»